Donc voilà, c'est vraiment des méthodes de répression qui sont quand même très particulières et je pense qu'ils doivent être retenues dans l'histoire coloniale française. Et je pense pour le coup que c'est vraiment pas assez visible ces méthodes-là, alors qu'on pourrait faire des liens entre les différentes méthodes de répression en Algérie ou enfin voilà, dans les autres colonies. Et
On est 7 ans avant le début de la révolution algérienne, hein.
oui.
C'est rien, hein.
Oui,
C'est
oui.
juste avant.
Ah oui. Non, mais on pourra en parler, mais c'est des histoires qui sont extrêmement liées, pas juste du côté français, mais même du côté des colonisés. Les réflexions, les imaginaires politiques sont très très liés. On voit qu'il y a des solidarités qui vont se former, même après l'indépendance.
J'aime bien citer Ali Swali parce que c'est un peu le Thomas Sankara des Comores.
Ce qui est important dans les constructions collectives kanak, c'est ceux qui portent la parole.
On dit très souvent que les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais.
Puis à partir du moment où il a commencé à y avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à fuir, et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoul ou d'Ilam en France.
Diaspora et imaginaire des luttes.
Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant.
Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux aujourd'hui qu'on puisse reprendre le podcast Diaspora et imaginaire des luttes, d'autant que c'est le premier épisode qu'on publie depuis qu'on a commencé la version francophone du magazine. On a besoin de votre soutien par ailleurs, je ne pensais pas le dire, mais voilà, je profite du moment pour le dire. On est encore dans une pleine campagne d'abonnement à cette version francophone du magazine pour pouvoir la pérenniser, pour pouvoir rentrer dans nos frais. Et cela jusqu'au 29 février, on a besoin de 500 abonnés pour vraiment rentrer dans nos objectifs. Et on n'en est pas super loin, mais on n'en est pas super près non plus, donc... voilà, je vous invite véritablement à nous soutenir si vous êtes en moyen de le faire, très simplement. Et aujourd'hui, donc, je suis très heureux que cet épisode, qu'on prévoit depuis un bon petit moment, sur Madagascar et la diaspora malgache en France, ait lieu. Et il a lieu, en l'occurrence, avec mon invité, Hans Rakotenirin. Bonjour Hans.
Bonjour.
Un grand merci. Donc tu es donc doctorante en sciences politiques en deuxième année, et donc ton doctorat est quand même alors vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui sur les insurrections anticoloniales à Madagascar. Donc j'ai très hâte qu'on ait cette conversation. Écoute, très simplement, la première question, c'est toujours la même. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta relation avec la diaspora malgache en France, qui, par ailleurs, je devrais rajouter ça, alors ça va en pleine Coupe d'Afrique des Nations, ça va clasher un petit peu, mais je ne savais pas, c'est toi qui me l'as appris dans la préparation de cet épisode, qui est la plus grande diaspora africaine hors Maghreb en France. Ouais. Et donc c'est quand même pas rien, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est intéressant comme petite info. Merci pour ton invitation, je suis très contente d'être là. Alors mon rapport à la diaspora, je pense que je vais commencer par le fait que j'ai grandi dans une famille où je parlais tout le temps en malgache, avec des parents qui tous les deux sont venus ici pour leurs études, donc qui ont grandi à Madagascar et sont venus ici après. Et donc à côté de ma famille, un des plus gros liens avec la diaspora malgache, là où j'ai rencontré d'autres malgaches, c'était l'église. Donc, c'est pas quelque chose qui est particulier à mon parcours, on aura le temps de revenir dessus, mais l'église, ça a été quand même un endroit où j'ai non seulement cultivé le rapport à la langue, à travers les chants, les cultes malgaches, etc., cultiver mon rapport à la communauté parce qu'on n'était que des malgaches. Et donc ça, c'est un truc que j'ai eu depuis très petite parce qu'il y avait l'école du dimanche. Et donc, du coup, on y va dès qu'on est tout, tout petit, quoi. Et donc, de ça jusqu'à mes 17 ans, 16 ans peut-être, c'était la communauté où j'ai quand même côtoyé beaucoup de malgaches. Donc voilà, un rapport très... j'allais dire communautaire, mais c'est pas ce que je veux dire, mais quand même... Ouais c'est un peu ça quand même. C'est vraiment comprendre que, bon, on fait partie d'une communauté depuis qu'on est enfant, et voilà, on a des amis qui nous ressemblent, voilà, qui parlent... Nos parents, ils parlent tous la même langue, donc on comprend qu'il y a une diaspora. On ne met pas ces mots-là quand on est jeune, mais j'ai compris très vite qu'il y avait une communauté. Après, je me suis un peu éloignée de ce milieu-là, et ça, je pense que ça a changé mon rapport dans le sens où j'ai gardé mes liens avec des amis de ce milieu-là. Mais on a tous un peu eu un espèce de tournant, je pense, autour de notre rapport à la diaspora, un peu plus critique, un peu plus curieux, sur « Ok, mais en fait, on est malgache, mais c'est quoi notre histoire ?» On a tous des parents qui ont connu des parcours migratoires. C'est quoi la différence dans ces parcours? Pourquoi on se retrouve tous dans cette église? Voilà, et je pense que c'est ça qui m'a amené à creuser après. Je pense que c'est important de préciser ça, que mon rapport, du coup, à l'histoire de Madagascar a été quand même assez autonome. C'était un apprentissage assez autonome, ce qui paraît paradoxal ou pas. Bof, non, pas trop, en fait, quand je réfléchis, mais voilà, c'était pas c'est pas dans cette communauté là que j'ai vraiment appris l'histoire de Madagascar. C'était quelque chose qui est venu un peu après.
Peut-être géographiquement parlant, en France, là on parlait, je sais pas si on parlait d'Île-de-France ou pas, mais j'ai l'impression que justement en fait la diaspora est très grande, et j'ai l'impression, et je peux tout à fait me tromper, mais venant d'une petite ville moi-même, c'est un peu ce sur quoi je base mon intuition, que c'est une diaspora qui est relativement bien répartie à l'échelle de la France hexagonale.
Ouais, par exemple, ces églises-là, tu vois, il y a, j'ai envie de dire, une organisation qui s'appelle les églises malgaches en France, et elles ont des... littéralement, on appelle ça des toits, dans chaque ville, en fait. Donc, il y en a à Rennes, il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, et donc, il y a des réunions nationales, mais c'est vrai que dans chaque ville un peu grande, quoi, il y a un groupe. Donc ça dit de la répartition, je pense, sur les territoires. En sachant que dans les premières vagues de migration, qui étaient quand même des migrations intellectuelles, ça restait les villes où il y avait où on faisait des études, quoi, qui étaient quand même les points d'arrivée majoritaires, je pense. Donc Paris, Montpellier, Lille. Voilà, ce genre de ville. Et je pense qu'au fur et à mesure, on s'est répartis sur tout le territoire.
Je viens de vérifier chez moi, à Laval, beaucoup plus petite ville, il y a une église protestante malgache.
Mais tu vois, voilà. C'est fou. C'est quoi la ville?
Laval.
Attends,
près de Rennes.
C'est fou. Ouais. Ben voilà.
70 000 habitants.
Ouais. Ah ouais.
Et... vu que j'ai déjà, d'ores et déjà donné le sujet de ton doctorat, j'imagine qu'évidemment c'est dans la suite de ce que tu disais un petit peu dans ta formation personnelle autour de l'histoire du pays. Est-ce que tu voulais un petit peu approfondir?
C'est vrai que ce qui m'a amené à ce doctorat-là, parce que c'est pas parce qu'on fait partie de cette communauté qu'on va forcément travailler sur ça, et maintenant que je suis dedans, je me rappelle tout le temps de... comment j'en suis arrivée là. C'est quand même, c'est parti de... ça part des plus petits trucs, de faire un exposé en CM2 sur le thème, de demander à ses parents, mais en fait, ok, qu'est-ce que ça veut dire ça, etc. Moi, ça a commencé par des trucs comme ça, donc l'intérêt, il était là quand j'étais petite. Après, ça s'est un peu précisé quand j'étais en licence, parce que j'ai fait une licence d'histoire, et du coup, j'avais travaillé sur des archives qui étaient disponibles en ligne, et en fait, ça m'avait tellement... non seulement ça m'avait plu, mais ça m'avait un peu terrifié, en fait, de ne rien connaître comme ça. C'était des archives sur les demandes de réparation après les insurrections de 1947. Voilà. Et c'était disponible comme ça, en ligne, sur le site des archives d'Aix-en-Provence. Et du coup, j'ai travaillé sur ça. Premier mémoire, j'ai travaillé sur la diaspora. Deuxième mémoire, j'ai travaillé sur le terrain même. Je suis quand même restée, je pense, autour de cette histoire d'histoire, de mémoire, de comment de quels récits circulent au sein de la diaspora et sur le territoire au niveau de son histoire nationale. Et par exemple, pendant mon premier mémoire, j'avais travaillé sur le rapport de la diaspora en France aux identités de caste. Et après avoir travaillé sur ça, et j'ai vu un peu toute l'histoire à laquelle se raccrochaient ou non ces personnes-là, je me suis dit, ok, il faut absolument que je travaille sur le terrain. Je peux pas, j'aime travailler sur la diaspora, mais il faut que j'aille sur le terrain. Et c'est ce qui m'a amené à travailler après sur les insurrections. Et je travaille plus précisément sur comment on écrit l'histoire de ces luttes anticoloniales d'un point de vue de sciences politiques. Donc c'est vraiment aller à la recherche des circuits, de ce qui est visible, de ce qui n'est pas autour de ces contestations, quoi.
Bah, on va y revenir tout à l'heure, ça c'est sûr. Mais peut-être avant qu'on fasse tout ça, j'aimerais peut-être qu'on parle, je sais pas, de ce que j'appellerais peut-être le cadre un petit peu de peut-être le cadre même mondial ou africain ou de Madagascar, notamment à travers peut-être des indices comme celui de la langue malgache ou même du nom du pays qui est un peu reflète tous deux, y compris dans la manière dont le magache est écrit avec un alphabet d'origine arabe. Le fait qu'en fait, bon, la première chose que je t'ai dit quand on a préparé le podcast, c'est évidemment c'est la manière dont on a tendance, surtout en France, à savoir deux trois trucs sur un sujet et de penser que ça peut que ce degré de connaissance est assez pour pouvoir dire des trucs, on va dire. Et en l'occurrence, ce dont je parle, c'est le fait que le peuple malgache est identifié et vécu et narré quelque part comme un peuple austronésien. Et donc voilà, c'est ce qui ferait que cette île gigantesque serait plutôt tournée vers l'est plutôt que vers l'ouest, vers le continent africain, chose qui est sans doute un peu un écueil dans lequel ne pas tomber. Et du coup, je voulais très simplement qu'on recadre bien les choses au tout début de notre conversation. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, et notamment justement des écueils qui sont des écueils qu'un certain nombre de personnes malgaches elles-mêmes dont elles sont responsables également. Mais justement, est-ce que tu peux nous en dire?
Alors justement, c'est intéressant, on fera le lien après sur ce que ça a pour conséquence, cette espèce de confusion, ce que ça a pour conséquence au niveau de nos identifications en France en tant que diaspora. Mais dire que le peuple malgache est un peuple austronésien, c'est ni faux ni vrai, c'est juste que ça me semble incomplet. Si on prend à travers le prisme de la langue malgache, c'est pour le coup vraiment a vraiment différents héritages. Je vais parler de manière très très concrète. On regarde les jours de la semaine en malgache, c'est de l'arabe. C'est vraiment les mêmes sonorités, presque les mêmes écritures. Il y a aussi des héritages de l'Afrique de l'Est.
Mais de l'arabe peut-être qui viendrait du coup plutôt de la Malaisie et de l'Indonésie, n'est-ce pas?
En fait, il y a eu des migrations aussi. Il y a eu des migrations dans ces deux, à la fois du continent et de l'Est.
D'accord.
Donc en fait... Donc non, pas que. Et donc à la fois du malais, et aussi on trouve des points similaires au swahili, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de tout, et je trouve ça vraiment incomplet de dire que c'est juste une langue qui vient de l'Est, en fait. Surtout que ce n'est pas une langue, c'est une langue avec beaucoup de dialectes qui sont quand même très différents. Évidemment, il y a le dialecte merne, donc... Merne, c'est l'ethnie du centre des hauts plateaux, donc dont la capitale, qui a été dominante politiquement et socialement au fil des siècles, et leur dialecte a été choisi comme le dialecte officiel. Qui est, du coup, quand on dit on parle malgache, c'est un peu à ce dialecte-là qu'on pense, mais en vrai, il y a tellement d'autres manières de parler malgache qui sont très très différentes. Et sûrement avec des différences d'héritage que je ne maîtrise pas. Mais moi, par exemple, le malgache que je maîtrise, c'est celui des mernes, du centre. Et voilà.
D'accord. Bah, de toute façon, les liens avec les luttes du continent, on y reviendra à la fin. Mais peut-être justement, en fait, ce que tu semblais d'ores et déjà pointer vers un petit peu, on va dire, la dynamique de pouvoir qui pouvait s'opérer au sein du pays même, avec justement ce peuple au centre qui domine quelque part. Est-ce qu'on peut parler justement un petit peu de ces dynamiques de pouvoir, notamment à travers la caste, et ce que ça peut impliquer aussi, en fait, même à l'échelle de la diaspora.
Je complète ce que je disais tout à l'heure, parce que je disais que ça avait cette confusion autour du peuplement des Malgaches, qui est vraiment un débat encore, ça reste aujourd'hui un débat. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à titre personnel sur ses conséquences politiques, etc., mais il y a vraiment des personnes qui l'étudient de manière hyper... dans la science dure, quoi, vraiment, recherche des premières traces, etc. Donc c'est quand même un sujet qui est encore en débat. Et en fait, ça, je reviens sur les cas juste après, mais ça a une conséquence sur l'identification des Malgaches en France, où je pense qu'il y a quand même un flou. Il y a quand même un flou où on demande à des personnes malgaches de s'identifier. Sous les termes qu'ils ont connus en France, etc., je pense que personne n'aura la même réponse. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se considérer noirs, il y en a qui vont se considérer pas noirs mais africains, il y en a qui vont se considérer malgaches. Enfin, donc c'est vraiment hyper intéressant, je pense, ces écarts de réponse. On peut s'en offusquer, mais je pense que c'est intéressant plutôt de les étudier, dans le sens où ça vient pas de nulle part. C'est le fait que les personnes se distancient ou non du mot noir, du mot africain, ça vient d'une histoire, et justement, pour parler des castes, ça vient pas que d'une histoire de caste, mais du coup, une des formations politiques quand même majeures avant la colonisation à Madagascar, c'était la royauté. Donc, il y avait plusieurs royaumes, et il y a eu au fur et à mesure des années une conquête du royaume Mern, donc je répète, du coup, des hauts plateaux avec la capitale. Une conquête sur tout le territoire. Donc au final, le royaume Mern a fini par être dominant. En tout cas, ce voulait être dominant, c'était le projet. Et dans ce système de royauté, il y avait des groupes statutaires. Alors je dis groupes statutaires parce que ça aussi, c'est encore en débat. Il y en a qui disent caste. Moi, j'ai pas de problème à dire caste parce que mes parents m'ont appris comme ça aussi. Mais on peut dire groupe statutaire, groupe social, enfin, non, je sais pas. Mais... Du coup, la population était divisée en trois catégories. Donc, il y avait les esclaves, qu'on appelait les indévous. Après, il y avait les ouves, qui étaient une petite bourgeoisie. Une petite bourgeoisie. Et après, il y avait les indjins, qui étaient les personnes qui sont les personnes de la famille royale. Et du coup, c'est évidemment les indjins qui étaient le plus dominant, en tout cas de manière symbolique. Et c'est quelque chose qui est quand même resté dans l'imaginaire. Et il y a quand même une association à une espèce de noblesse, à toutes les personnes qui ont un ancêtre autour de ça. Alors, justement, ce que j'étudie dans mon mémoire, c'est est-ce que les personnes revendiquent vraiment cette identité-là à distance, donc après un parcours migratoire et tout. Il y a quand même la génération de mes parents, il y a quand même beaucoup de personnes qui y tiennent encore, je pense. Au niveau de ma génération, c'est des formes de réappropriation qui sont vraiment très différentes. Il y en a qui vont suivre... Qui vont suivre les enseignements de leurs parents autour de l'importance de l'identité de caste, parce que ça construit notre rapport à un territoire aussi. Et après, il y a ceux qui s'en détachent un peu. Donc, dans tous les cas, je pense que cette identification au caste ou non, elle joue après sur comment on se décrit en tant que diaspora ici, parce que c'est des catégories qu'on ne retrouve pas ici de manière contemporaine, mais qui, quand même, dans l'imaginaire malgache, sont bon, ok, qui fait partie de la classe noble, avec qui on peut se marier ou pas, telle couleur de peau, elle renvoie plutôt à quelle catégorie de personnes, de manière très schématique, quand on est clair, on s'apparente plus à la noblesse, cheveux lisses, etc. Tout est un peu lié dans ces confusions-là, et ça joue, je pense, sur le fait que il n'y a pas une seule... De toute façon, ça n'existe pas une diaspora qui s'identifie de la même manière, mais je pense que ça explique quand même les écarts entre les manières de se présenter au sein de la diaspora.
Ces castes, il est bien évident que c'est pas le colonialisme qui les a créés, mais néanmoins, évidemment qu'il y a eu un rapport à ça. Mais du coup, on va peut-être commencer un petit peu le volet historique de cet épisode. avec alors les disclaimers habituels de 1, c'est impossible pour n'importe quel endroit sur Terre, et alors avec un pays aussi grand que celui de Madagascar, ça l'est encore plus, mais de faire comme ça des espèces de survols en prétendant quoi que ce soit d'autre que juste de toucher du doigt deux, trois choses, on va dire. Et puis un deuxième disclaimer qui est que, bien évidemment, à chaque fois, on s'arrête particulièrement à la période coloniale. C'est certainement pas pour en faire l'alpha et l'oméga de l'histoire d'un pays, loin de là. Mais il est vrai que, bon, voilà, d'autant plus quand on parle d'un pays qui a été colonisé par la France, vu qu'on parle de diaspora en France en particulier. Bon, bah, c'est là où quand même souvent le lien qui, enfin, ce qu'Edouard Glissant appelle la relation, qui est évidemment une relation ancrée dans la violence coloniale, mais c'est là où elle commence, donc c'est un petit peu normal aussi qu'on passe un tout petit peu plus de temps dessus. Mais du coup, voilà, et puis c'est un truc dont toi et moi, on avait un petit peu discuté sur le fait que de toute façon, il y avait des personnes qui avaient travaillé sur les périodes précoloniales et qu'elles le faisaient très bien, mais que c'était peut-être pas forcément ta spécialité non plus, toi.
Alors, franchement, il y a de quoi faire, je pense, au niveau de tout ce qu'il y a. Déjà, au niveau des royaumes, il y a beaucoup, beaucoup de sources, et pas que du royaume Myrne, où il y a vraiment... Je pense qu'il y a eu des tentatives de rééquilibrage, de travailler sur les différents royaumes. Et même avant ça, je parlais de dépeuplement et tout, mais même de l'esclavage hors colonie, enfin, il y a vraiment des choses intéressantes. Et c'est vrai que, comme je travaille sur les insurrections anticoloniales, ça cadre un peu la discussion, mais en effet, il y a beaucoup, beaucoup de choses avant. Il y a d'autres formes de résistance à étudier internes avant la colonisation. Mais pour commencer un peu sur le volet historique, du coup, le territoire malgache, enfin l'occupation française, elle a été officialisée en... Je crois que c'était 1895 ou 96. En fait, il y a une espèce de moment de latence où ils hésitent sur le statut de Madagascar, est-ce que c'est un protectorat, est-ce que c'est un état indépendant, donc ça devient un protectorat. Et après, plus tard, ça sera prononcé comme une colonie. Donc on a ce moment-là.
Peut-être on enregistre cette émission, cet épisode, à un kilomètre d'une statue de Gallieni. Ça vaut peut-être la peine d'en parler. Enfin, moi,
chercher le moyen de l'introduire.
Ouais. On est précisément là. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être un certain nombre de nos auditrices et auditeurs seront plus familiers avec ce qu'on a appelé la pacification en Algérie, ouais, de Bugeaud et les dizaines de milliers de morts que ça a pu impliquer. Gallieni fait quelque chose de tout à fait similaire à Madagascar. Gallieni, quand même, juste pour un petit peu cibler le personnage, c'est un peu ce que moi, dans mon bouquin, j'essayais d'identifier comme un petit peu ce que j'appelle les hommes du continuum colonial, c'est-à-dire vraiment ceux qui circulent dans toutes ces géographies coloniales et qui acquièrent un certain nombre de savoirs, enfin, tout à fait dans la lignée méthodologique de quelqu'un comme Mathieu Rigouste. Mais Gallieni, quand même, il a quand même, avant d'arriver comme gouverneur et pacificateur, avec des énormes guillemets évidemment, de Madagascar, il est quand même passé par la Réunion, par le Sénégal, par la Martinique, par le Mali, par l'Indochine. C'est vraiment un pur produit du continuum colonial français, n'est-ce pas ?
C'est ça. Et lui, il est arrivé, en plus, il est monté en grade jusque, voilà, au poste de général, et il est arrivé avec ce poste-là à Madagascar. Il était envoyé pour mieux gérer les contestations, entre autres. Je corrige ce que j'ai dit juste avant, j'étais 10 ans trop tard. Du coup, le premier traité qui signe l'occupation française, c'est en 1885, et c'est un protectorat français à ce moment-là. Et en 96, Madagascar sera prononcé colonie française. Et en fait, dès ce moment-là, il y a déjà des premières résistances, en fait. Notamment une révolte qui est assez connue, celle des Ménalambes, plutôt au centre de Madagascar aussi. C'est plutôt des élites qui justement, ont connu aussi la forme politique qui a précédé le colonialisme, qui sont voilà, qui ont vu d'autres manières d'organiser le pays et qui du coup voilà ont été critiques. Et en fait Gallieni est venu j'allais dire limiter, mais c'est vraiment mal dit, il est venu réprimer cette contestation, qui est quand même, je trouve, arrivée très tôt dans l'histoire coloniale de Madagascar. Donc voilà.
C'est marrant, cette dernière année, j'ai eu deux livres que j'ai trouvé vraiment très beaux déjà, et puis qui ont un peu formé mes brides d'imaginaire politique autour de Madagascar. Mais du coup, là, autour de cette période-là, il y a le dernier livre de Michel Rakatoson, en Batomang, Le silence et la douleur, que je recommande vivement, justement, sur le début de l'occupation et la résistance malgache.
C'est super intéressant, je trouve, ces manières de raconter les résistances à travers de la... pas de la fiction, sans être vraiment de la fiction, mais des nouveaux points de vue qui s'éloignent un peu de du récit classique d'historien. C'est comme le livre là, que tu as lu, que je n'ai toujours pas lu, qui s'appelle Feu, fièvre, forêt.
Au pluriel. Ouais. Ouais.
T'en as pensé quoi ?
Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est le livre de Marie Ranzano. Feu, fièvre, forêt, au pluriel, c'est un magnifique titre en plus. C'est hyper bien écrit, mais là, du coup, c'est sur l'insurrection de 47, donc on y reviendra peut-être. Mais en fait, c'est génial qu'il y ait des personnes qui fassent le boulot que toi, tu es en train de faire, c'est-à-dire un peu le charbonner pour faire des doctorats et tout ça, et puis d'autres qui vraiment amènent, même si je pense qu'on peut toujours réussir à faire ça dans la recherche académique, mais bon, voilà, c'est plus facile de le faire à travers le domaine littéraire, d'amener un petit peu l'incarnation la perspective véritablement des personnes qui ont vécu cette insurrection, qui se sont organisées pour la faire. Et même dans le cas de Marie, à l'inverse, le champ contre champ avec ce jeune officier français de Bretagne qui débarque avec tous ses défauts à Madagascar.
Ouais, et puis c'est pas du tout le type de recherche, je pense. Bon, déjà, on n'a jamais assez de support, mais il y a un peu un truc de faire parler des témoignages qu'on trouve par-ci, par-là. Moi, c'est pas vraiment mon travail. Moi, c'est plus, voilà, comment on met en récit vraiment de manière officielle. Et je trouve ça vraiment très bien. En plus, c'est vraiment très récent, donc on sent que... Mais c'est pas nouveau, la fiction autour des contestations, etc., de Madagascar. Mais je suis contente que ça continue à sortir.
Bah, du coup, on peut continuer un petit peu dans notre progression coloniale, historique, je veux dire.
Du coup, Gallieni, il est arrivé avec, un plan très clair, la politique des races, qui consistait... Donc déjà, on voit dans cette politique des races, d'ailleurs, elle est accessible à la BNF, si jamais vous voulez lire, qu'ils ont très clairement identifié quelles étaient ces castes, très clairement, dans le sens où ils identifiaient qu'il y a des groupes différents, mais ils n'ont pas forcément les termes que nous, on utiliserait aujourd'hui pour raconter ces différents groupes. C'est-à-dire que moi, je lisais, j'avais l'impression qu'il y avait une confusion entre les ouvres, les indines, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils cherchaient quel était le groupe le plus dominant socialement et comment le contrer, en fait. Comment le remplacer, donc comment remplacer eux, ce qu'ils disaient les ouvres, mais qui en vrai étaient toute la noblesse, tous les notables qui étaient ancrés sur le territoire. Et en même temps, pendant la colonisation, on va y avoir ce truc de réutiliser les institutions ou les modes de fonctionnement de certains modes de fonctionnement de la royauté, donc s'appuyer sur certains héritages tout en essayant d'effacer cette domination qu'ils avaient initialement pour la remplacer par un gouvernement français, quoi. Donc voilà, il y a cette espèce de paradoxe là dans la politique des races, en général dans la politique de... Il y a ce débat de est-ce que c'était de l'assimilation, de l'association, mais je pense qu'au-delà de ça, voilà, il y avait vraiment comment on fait avec un territoire qui avait déjà des formations politiques, qui étaient identifiées par la population, qui étaient reconnues par la population, qu'est-ce qu'on en fait ? Du coup, ça passe par on mobilise des personnes des castes ouv et indiennes comme employés administratifs. Certains, on va leur donner le statut de fonctionnaire, d'autres non. Enfin, c'est un peu, c'est pas du tout automatique le statut de fonctionnaire. Et ouais, voilà, ils vont à la fois s'appuyer tout en essayant de remplacer, je pense, petit à petit au fur et à mesure des années.
Et puis, il faut peut-être rappeler, à ce moment-là, du coup, c'est quand même le régime de l'indigénat.
Ouais, ouais, j'allais y venir parce que c'est un peu... Non, mais c'est lié, en fait, parce que à qui on accorde le statut de fonctionnaire et à qui on accorde, en fait, les droits qui vont avec et les droits qui vont avec la citoyenneté, etc. Parce que la question s'était posée, ok, est-ce qu'on donne aux Malgaches la citoyenneté française? Si on leur donne pas, du coup, ils ont quel statut? Donc, le statut de sujet. Mais sauf qu'on a aboli l'esclavage au début du siècle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a cette espèce de confusion. On donne quelques droits à certains notables. Et il y en a à qui on va accorder les droits de fonctionnaire ou des choses proches de la citoyenneté. Et ça, c'est pas du tout automatique. Et en fait, par ailleurs, je précise, tout ce qui est code de l'indigénat, c'est quand même beaucoup de... un texte de punition. De, ok, si vous faites ça, vous êtes puni, c'était ça le gros de ce code-là. Et par contre, au fur et à mesure des années, il va y avoir des changements sur l'attribution de la citoyenneté aux Malgaches. Ça va se faire au mérite dans le sens, si vous montrez que vous êtes attaché au pays, si vous avez accompli des choses pour le pays, etc., vous et... c'était la personne qui faisait la demande et les enfants et femmes obtenaient la citoyenneté. Voilà. Donc c'est pas des grands nombres. Hein, c'est, je crois que sur la dernière modification, cet accès à la citoyenneté, il y a peut-être 400 personnes qui l'ont eu, mais enfin, c'est rien, quoi. Donc, et c'était très conditionné à l'attachement aux institutions françaises. Et, enfin, voilà.
Et donc arrive 46, l'abolition du régime de l'indigénat, et donc juste après l'insurrection, la grande insurrection qu'on nommait il y a quelques minutes, celle de 47,
ouais.
Alors, un petit peu quelque chose là que tu étudies de très près.
Ouais. Le contexte de cette insurrection, enfin le contexte juste avant, c'est quand même la guerre et tout ce qui est recrutement des Malgaches pour les armées françaises. Donc en fait, la France a clairement recruté. Mais c'était déjà le cas en 14-18, mais là, bizarrement, ils ont moins recruté pour la Seconde Guerre, mais il y a quand même eu énormément d'impact et aussi très peu de reconnaissance. Enfin, quand on lit un peu des choses, c'est un peu formulé comme ça, qu'il y a très peu de reconnaissance ou de retour pour les personnes qui sont allées... Qui ont intégré les troupes françaises. Et en fait, ça va générer des premières frustrations. Ce qui est accentué par le contexte de pauvreté post-guerre. Et donc, en fait, tout ça, ça va un peu cristalliser les contestations contre l'administration française. Et donc, en fait, les insurrections vont commencer comme ça. Ça va être surtout dans l'est de Madagascar, contre des garnisons ou des lieux d'administration du gouvernement colonial. Et en fait, tout le truc de cette insurrection, c'est la question, c'est qui était derrière. En gros, il y avait un parti qui se formait à ce moment-là, le MDRM.
Le Mouvement démocratique pour la rénovation du Malgache.
C'est ça. Et donc, le MDRM, ils étaient clairement pour l'indépendance. Mais quand on lit un peu les procès de 47, il y a un peu voilà, cette espèce de question. Est-ce qu'ils ont vraiment appelé à l'insurrection? Est-ce que c'était des trucs pas organisés, etc. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une contestation généralisée, qu'elle s'est manifestée dans l'Est en premier, qu'il y a eu aussi des tentatives dans le Sud, notamment à Diego, mais ça a été réprimé très rapidement. Atana, réprimé rapidement. En tout cas, tentatives d'organisation qui ont été très vite tues. Donc on retient surtout des mobilisations dans l'Est. C'est aussi lié tout bêtement à la géographie des endroits. Voilà, c'est des guérillas, en fait. Donc des personnes qui vont dans les forêts, etc., qui sont munies d'armes très très simples. Enfin, ça s'appelle aussi la révolte des Saguets. Et donc, voilà, c'était les Saguets de quelques groupes contre l'armée française. Du coup, il faut préciser qu'il y a eu quand même une énorme répression.
On parle de plusieurs dizaines de milliers de morts.
Hein, ouais, bah après, c'est un chiffre qui fait vraiment débat, même parmi les historiens. J'ai envie de dire, qu'importe le chiffre, en fait, il y a eu une répression et des modes de répression qui sont à retenir. Donc, par exemple, des prisonniers dans un train qui ont été fusillés dans un wagon, de la répression, parce que après, eux, ils sont passés par l'aviation, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment des méthodes de répression qui sont quand même très particulières et je pense qu'ils doivent être retenues dans l'histoire coloniale française. Et je pense, pour le coup, que c'est vraiment pas assez visible, ces méthodes-là, alors qu'on pourrait faire des liens entre les différentes méthodes de répression en Algérie ou voilà, dans les autres colonies. Et
on est 7 ans avant le début de la révolution algérienne, juste avant.
Ah oui, oui. Non, mais on pourra en parler, mais c'est des histoires qui sont extrêmement liées, pas juste du côté français, mais même du côté des colonisés. Les réflexions, les imaginaires politiques sont très très liés. On voit qu'il y a des solidarités qui vont se former, même après l'indépendance. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a eu la répression policière, il y a aussi la répression judiciaire, avec des procès vraiment extrêmement longs, des condamnations un peu floues. On peut retrouver la majorité de ces procès aux archives de National d'Outre-mer, Aix-en-Provence. Il faut s'accrocher. Enfin, quand on lit, c'est vraiment... c'est compliqué. C'est dur à lire. Mais en tout cas,
c'est les archives du colonisateur.
C'est ça. C'est dur à lire. On essaie de déceler. Donc voilà, je pense que ça reste... Qui était derrière, quand on regarde, par exemple, dans le livre dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle L'histoire de Madagascar, qui est un livre qui est sorti en 2021, qui avait pour ambition de mettre dans un petit manuel destiné aux enseignants et intéressés par l'histoire, l'ensemble de l'histoire de Madagascar. Il est dit, par exemple, que c'est le MDRM qui était à l'initiative, ou du moins qui a motivé. Je pense que... Et après, ils nuancent, ils disent que c'est au-delà de ça, mais voilà, je pense que c'est encore des choses qui sont en discussion. Voilà, c'est une révolte qui a été fortement réprimée, et je pense que c'est quand même la mémoire qui reste aujourd'hui chez les Malgaches. Et c'est intéressant qu'on appelle ça une révolte, et que on verra après, mais il y a d'autres choses, d'autres mobilisations qu'on appelle plutôt des révolutions. Donc est-ce que c'est parce que c'est une tentative de contestation qui a échoué, voilà, je pense que c'est intéressant les mots qu'on utilise autour de 47, même dire que c'est une insurrection ou c'est une guérilla, c'est pas du tout la même chose en termes d'organisation de la contestation, etc. Donc voilà.
Si on en vient au moment de l'indépendance, il faut peut-être resituer la manière dont ça a été fait. C'est totalement analogue aux indépendances en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Je dois en oublier, mais c'est-à-dire, et celle que j'oublie pas, c'est la Guinée qui, justement, elle est exceptionnelle là-dedans. Mais donc, c'est vraiment la tentative gaullienne en plein milieu de la révolution, de la contre-révolution en Algérie, de finalement donner entre guillemets une indépendance à des colonies qui, de toute façon, évidemment, ont des peuples en révolte, mais peut-être, on va dire, des élites qui sont effectivement assez prêtes à travailler un petit peu avec la France gaullienne. Et donc, ça implique évidemment un certain nombre de conditions de conditions sur ce que un peu qu'on pourrait appeler néocolonial, que alors je sais pas si généralement on place pas Madagascar dans ce qu'on appelle la France-Afrique, parce qu'il y a peut-être une séparation géographique assez forte, et puis aussi parce que d'un point de vue du présent, je pense que 72 a un peu rompu avec ça, et on va y venir. Mais en tout cas, peut-être dans les premières années, ce sera totalement légitime de faire un lien avec les pays d'Afrique de l'Ouest qui se sont libérés du colonialisme français, mais pas complètement, quoi. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié le Tchad, le Niger, la Centrafrique, la République centrafricaine, et le Congo, la République du Congo.
Je crois que ma liste est complète, mais je vous avoue que je la fais de tête. Donc
Mais en tout cas, ce que je pense qu'il faut retenir, en effet, c'est que on est sur le schéma typique de le plan de De Gaulle, une décolonisation contrôlée. Donc comment ils vont trouver le moyen d'être toujours là en étant officiellement plus les colons. Donc en fait, ça, dès les années 50, hein, ça va se préparer avec un candidat qu'ils soutiennent particulièrement, Tsir Alan, qui sera du coup le premier président à la proclamation de la République malgache. Donc juste au niveau chronologique, c'est proclamation de la République malgache en...
J'ai oublié la Haute-Volta du Burkina Faso
dans ma liste. Burkina, en plus, Burkina, c'est intéressant parce que... Ouais.
Bah pareil, niveau...
Niveau circulation des leaders. Pardon, je vais pas me lancer dans ça, mais... la République malgache est proclamée. Tsir Alan est du coup le président de cette république. Et en 60, le 26 juin, précisément, Madagascar est indépendant. Et donc là, s'ensuivent une espèce... Enfin, c'est des années où on a quand même la France qui reste présente dans les institutions, notamment dans l'enseignement, où on a le système de coopération. Donc en fait, les enseignants français qui sont restés et qui sont les coopérants et qui sont majoritaires dans l'enseignement. Et tout ça, en fait, ça va être largement contesté après... 12 ans après, lors des manifestations de 1972. Alors, moi, je dis manifestation, vous allez trouver révolution de 72, le mai 72, en parallèle à mai 68. Pour faire court, c'est le moment où les personnes vont, les populations, en partant des étudiants, vont contester l'indépendance de 60, et notamment les accords de coopération qui ont été signés à ce moment-là. Et du coup, dans ces accords de coopération, il y a ce qui touche à la monnaie, ce qui touche à la langue, etc. Donc, c'est une mobilisation qui va partir des étudiants de médecine et qui va, au fur et à mesure, s'élargir et toucher plusieurs groupes, allant des chômeurs aux... Alors, je vais dire des mots qui correspondent à des partis, des groupes politiques qui existaient. Donc, il y avait des groupes pour les chômeurs, pour les précaires, des étudiants. Il y avait aussi les parents d'étudiants qui s'étaient mobilisés. Donc c'est quelque chose qui devient très très large et ça arrive dans la rue. Et donc il y a différentes manières qui ont été mobilisées pour contester. Il y a eu beaucoup de grèves, il y a eu des manifestations de rue. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend largement différentes couches de la population. Et tu parlais tout à l'heure de France-Afrique. C'est justement là que émergent des termes qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, néocolonialisme, etc. C'est pas que ça émerge, c'est que c'est mobilisé, non au néocolonialisme, accord de coopération égale accord d'esclavage. Donc on est quand même sur autre chose que une revendication d'indépendance, c'est vraiment quelque chose de très très critique sur la manière de la revendiquer. Justement, il y a plusieurs revendications. Une égalité dans l'enseignement, une malgachisation. Alors c'est un mot assez connoté, on verra, mais en tout cas, la présence du malgache dans l'administration, dans les enseignements, etc. Juste tout simplement, en fait, de retrouver une indépendance au-delà du traité politique, en fait, culturellement, en tant que population, qu'est-ce que nous, on a gagné dans cette indépendance, en fait. Et c'est une période qui est... Je suis en plein dedans, dans les archives de ce truc, et c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a des imaginaires politiques que moi... Enfin, je pense que j'en aurais jamais entendu parler, en fait, si j'avais pas creusé ces archives-là, de juste de voir des contestations frontales de la présence française, comme ça, à tout niveau, que ça soit... dans des petits groupements à la fac, jusqu'à des sphères un peu, des strates un peu plus hautes de diplomatie et tout. Donc en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est que Tsir Alan, le président, il va être poussé à démissionner. Il va donner les pouvoirs à Rama Lantzou, qui du coup, lui, va proposer un référendum pour valider son statut, et va remporter le oui. Et on entre quand même dans un autre volet politique, une recherche de l'indépendance dans la refonte des institutions, etc. Par exemple, Rama Lantzou, il va essayer de penser la place des anciennes structures. Par exemple, il y avait le Fouquenoul, qui était un peu... comment je pourrais faire une comparaison? C'est un peu comme région, département, etc. Mais c'était encore plus petite échelle.
Une division administrative.
Voilà, une division administrative. Mais ça a été... C'était d'abord une division... une organisation de la société avant de rentrer dans l'administration, en fait. Et là où les Français se sont appuyés quand même sur ces structures-là, ils les ont pas reconnues. Et du coup, Rama Lantzou, il essayait de redonner la place à ce genre de division pour juste, en fait, répartir, je pense, le pouvoir entre les différentes échelles. Repenser les enseignements, arrêter la coopération. Donc c'est un moment où il y a vraiment... une floraison de solutions. Ok, c'est quoi notre vraie indépendance, etc. Et après, bon, il a quitté le pouvoir. Il a donné à Ratsimandjav, qui a été assassiné 10 jours après son arrivée au pouvoir. On sait toujours pas pourquoi cette personne a été assassinée aujourd'hui. Il y a des historiens qui disent que c'est parce que justement, il représentait vraiment les attentes du peuple post-72. Mais bon, on ne sait pas. Et donc voilà, 72, c'est ce qu'on appelle la révolution malgache. Et je trouve ça intéressant que ça soit qualifié comme tel, parce que, on peut se demander aujourd'hui, ok, qu'est-ce qu'on a gardé de 72 Parce que juste après ça, il y a eu le régime socialiste avec Ratsirak. Ratsirak qui était... ministre des affaires étrangères dans le gouvernement provisoire. Donc il était déjà dans les parages, et lui après il a mis en place un régime socialiste avec un livre rouge malgache, etc. Et quand on me parle de cette période-là, en tout cas quand les personnes de la génération d'au-dessus m'en parlent, c'est comme si c'était un énorme trauma, le communisme à Madagascar, et je pense que c'est un énorme trauma. Et je trouve ça intéressant qu'on nous le présente comme ça, nous qui on n'a pas du tout connu ça, et on a des tendances, on s'intéresse au communisme, etc. Mais vraiment, si je dis ça dans ma famille, c'est un gros mot, quoi. Enfin, je pense qu'il y a eu un écart entre ce qu'a promis Ratsirak en termes d'indépendance, d'autosuffisance, etc., ces tendances dictatoriales, et les échecs sociaux, en fait, l'inflation, la famine, à ce moment-là. Enfin, moi, ce qu'on me racontait vraiment, c'est on faisait la queue parce qu'il y avait le rationnement, etc., donc enfin, vraiment, un trauma collectif, quoi. Et je pense que ça joue, en fait, sur c'est une hypothèse, mais je pense que ça joue sur le fait que les imaginaires politiques très radicaux de 72 ne soient pas aussi visibles que ça pourrait l'être, par exemple, pour mai 68, parce que ça a été enchaîné par un trauma, et c'était quand même... Les idées de Ratsirak, elles sortaient pas de nulle part, elles ont été construites dans la foulée de 72, et du coup, je pense que ça a stoppé le... Je pense que ça a traumatisé les gens, oui. Ça a stoppé le processus d'imaginer quelque chose autre que du libéral, et après ça, en fait, on arrive sur des gouvernements... Ratsirak va toujours rester... Après ça, pour faire court, parce que je veux pas rentrer dans tout ce qui est très très contemporain, mais on va avoir des candidats qui vont chercher... C'est la recherche de la stabilité démocratique, en fait, après l'épisode de Ratsirak. Et bon, spoiler, c'est un peu compliqué, mais on a quand même quelques têtes, quelques candidats qui restent, franchement, depuis presque une dizaine d'années sur la scène politique. Et donc moi, en fait, en tant que enfant de la deuxième génération, on va dire ça, là où j'ai vu des mobilisations politiques autour de moi en France, c'était autour de Ravalomanana, Radwin, etc. Donc ça, c'est plutôt à partir de 2009, où c'est là que j'ai vu des gens se mobiliser et que je découvrais en fait que, bah, en fait, à distance, les personnes tenaient quand même à s'exprimer sur qui allait être au pouvoir. Et c'était pas juste s'exprimer, c'était vraiment se mobiliser dans des termes que je ne comprenais pas à l'époque. Et voilà, c'est le seul souvenir de mobilisation que j'ai, de mobilisation politique que j'ai dans la diaspora.
Alors justement, ça va être la toute dernière question, mais qui du coup est quand même assez grande. C'est effectivement du coup la politisation de la diaspora. Déjà, est-ce que en 72, est-ce que la diaspora en France était déjà suffisamment grande et organisée pour peut-être participer à sa hauteur à cette révolution-là? Ensuite, bon bah, tu viens un petit peu déjà de dire quelle était peut-être la politisation de la diaspora vis-à-vis du pays lui-même, mais j'avais aussi envie de te poser la question sur d'un point de vue générationnel. J'allais dire notre génération, t'es plus jeune que moi. Mais bon, bref, on va faire semblant, on va dire une génération, ça peut être assez large. Et donc notre génération, est-ce que tu remarques quand même une politisation nette de cette génération malgache et peut-être avec une question plus particulière justement sur les luttes du continent et la manière dont justement Madagascar peut faire partie de cet imaginaire politique-là. Je remarque que tu as un petit pendentif avec Mada dessus. Ça me fait rigoler parce que je vois toujours les boucles d'oreilles en forme d'Afrique, mais dans lesquelles il n'y a jamais le Cap Vert, les Comores, bon, qui sont tout petits, il faut bien dire, même si on aimerait bien, mais Madagascar est quand même gigantesque, donc elle est rarement inclue dans ces boucles d'oreilles-là. Mais bref, c'est une question un petit peu en forme de blague ou d'anecdote, mais qui a quand même sens.
Ouais. Ta première question, rappelle-moi.
Sur 72, la diaspora.
Oui. Alors moi, je dis seconde génération. Alors, vraiment, c'est ma définition parce qu'en fait, juste pour revenir à mon parcours, mais ça correspond à pas mal de parcours d'élite dans le sens qui peuvent se payer la migration et les études. En France, la génération de mes grands-parents est venue étudier ici déjà. Mais il n'y a pas eu installation. Et après, moi, mes parents, ils se sont étudiés, ils se sont installés ici. Et c'était plutôt dans les années 80. Donc ils ont connu 72 là-bas. Concrètement, moi, par exemple, mes parents, ils m'ont pas du tout parlé de ce genre de choses. Par contre, quand je lis, je sais qu'il y avait des associations d'étudiants qui soutenaient les mobilisations de 72 depuis... Paris. Mais c'est vraiment quelques écrits un peu dispersés et j'aimerais beaucoup creuser sur ça, mais en effet, il y a un groupe d'étudiants malgaches, qui soutenait ces mobilisations-là. Après, je pense qu'il faut dire aussi, au-delà de 72, c'est qu'il y avait quand même des circulations dès les années 40, en fait. Donc il y a certains... leader révolutionnaire, je prends l'exemple de Rabbe Manandar, qui est un poète et qui est devenu un homme politique, qui a, lui, eu sa formation. Enfin, ses formations politiques se sont faites aussi dans le contexte de la négritude, avec ses collègues de ce milieu-là. Et je pense qu'il faut prendre en compte ces influences intellectuelles-là, non pas que ça a été dominant dans les manières de revendiquer l'indépendance, ou de la pensée, mais je pense qu'il y a quand même quelques groupes en France qui ont pensé l'indépendance de Madagascar depuis là-bas. Et je pense que ça a creusé. Alors, sur la politisation de la diaspora, je pense que c'est un peu une frustration pour moi parce que ça mériterait vraiment une étude approfondie, en fait, de voir comment les personnes... Juste, par exemple, si on s'arrête sur 2009, sur... voilà, toute la discussion, est-ce qu'il y a eu coup d'État ou non, qui devait rester au pouvoir, etc. Est-ce que les personnes maîtrisent, en fait, de ma génération, maîtrisent les candidats qui étaient sur la scène politique, les enjeux, ou même les tendances, en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas de force de gauche à Madagascar, et c'est limite pas pertinent d'avoir une force de gauche dans le sens où ça pourrait exister sous d'autres mots, en fait. Je dis ça juste parce qu'il y avait vraiment des inspirations marxistes autour de 72, donc c'est quand même un peu légitime de parler de ça. Mais moi, il n'y a pas de force politique aujourd'hui qui ressemble à ce dont je me rapproche. Et du coup, je me demande, est-ce que les enfants de la diaspora identifient un peu ces différentes catégories, qu'on est surtout sur du libéral? Franchement, je suis pas sûre, et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'études à ce sujet. Sur la politisation, du coup, moi, de ce que j'ai vu en rassemblement malgache, c'est plutôt du culturel, donc la religion, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le sport ou des choses comme ça, qui sont, on s'entend, la politique rentre là-dedans, mais en fait, c'est vraiment pas le truc qui domine. Je ne connais pas d'organisation politique de la seconde génération des malgaches. Et je pense que ça ressort ici et là, voilà, genre, quand on... En tout cas, moi, je sais que ça ressort quand on parle de, tout bêtement, des histoires de mariage, etc. On se rend compte qu'en fait, il y a des forces qui sont historiques et qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on devrait maîtriser. On devrait se positionner, en fait, par rapport à toutes ces identités-là. Et parce qu'elles ont des conséquences des conséquences matérielles sur comment on s'organise en tant que diaspora, en fait. Mais voilà, j'ai vraiment pas trop de visibilité sur la politisation diaspora malgache envers Madagascar. Après, par rapport à l'Afrique, c'est pareil, c'est lié à comment, en fait, on se perçoit en tant que diaspora. Si on se considère pas comme un pays africain, on va pas se sentir particulièrement concerné par toutes les luttes du continent, en fait. Moi, je ne repère pas, en tout cas, de force organisée de ma diaspora sur ce genre de sujet. Par contre, bon, je sais pas si c'est intéressant de le dire, mais dans les milieux militants, je vois un changement dans le sens où je vois des personnes malgaches s'investir dans des milieux, par exemple, identifiés comme organisation noire, etc. Ce qui est quand même... Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose à analyser, parce que, c'est, comme je disais, c'est pas une évidence ni pour les malgaches, ni pour les personnes qui perçoivent les malgaches. Et donc le fait que des personnes se mettent dans ces catégories politiques-là et se mobilisent pour ça, je pense que c'est un tournant qui est très très intéressant. Je dis tournant, mais je pense que c'est pas nouveau. Mais juste, moi, j'ai l'occasion maintenant de voir qu'il y a des malgaches qui se mobilisent, mais c'est vraiment au compte-gouttes, quoi. Voilà.
Bon, bah Hans, merci énormément d'avoir vraiment fait déplier tout ça. Il y avait beaucoup de choses, et je te suis très reconnaissant d'avoir réussi à trouver la synthèse à chaque fois. Et écoute, je te souhaite le meilleur pour du coup ce doctorat, et peut-être qu'on pourra refaire un point un moment.
Ouais. Du coup, je sais ça pas. Serait intéressant, voilà. Pour le coup.
Un grand merci beaucoup, à toi. En tout cas.